Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Vu ce qu'il a plu, toute l'eau s'est engouffrée dans la rue, les caniveaux n'arrivaient plus à suivre et toute l'eau est rentrée dans tous les magasins, chez tous les commerçants.
Des rues transformées en torrents en quelques minutes seulement. Gros dégâts ce soir à Reims et dans de nombreuses autres communes. De violents orages et de fortes pluies balaient le pays. Nous ferons un point sur la situation dès le début de ce journal. Un féminicide, un de plus. À Colmar, un homme déjà condamné pour violence conjugale a défenestré son ex-compagne du 8e étage. Les voyageurs souhaitant venir en France vont être soumis à un code couleur en fonction de la situation sanitaire de leur pays d'origine. Vert, pas de test PCR si vacciné. Orange et rouge, protocole beaucoup plus compliqué. Les TGV sont-ils des clusters ambulants ? C'est en tout cas le risque que pointe un rapport de l'inspection du travail. La ventilation dans les rames serait insuffisante ? Faux, répond la SNCF. Certains l'accusaient de complaisance avec l'islamisme. L'observatoire de la laïcité va être remplacé dans les prochains jours. Le gouvernement a tranché. Dans ce journal également, cette étude de l'INSERM, l'alcool coûte autant à la société que le tabac. C'est même la première cause d'hospitalisation en France. Le foot féminin, les joueuses du PSG pourraient remporter le titre ce soir et mettre fin à 14 saisons d'hégémonie lyonnaise. Et puis nous irons évidemment à Roland-Garros. La météo, elle va s'améliorer doucement. Les orages vont se calmer demain. Début de journée ensoleillée sur la façade atlantique. Mais il y aura un risque d'averse dans le Grand Est, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a terminé la semaine en petite hausse, plus 0,12% à 6515 points. Et tous les détails à venir avec Claire Lemaître de boursier.com. L'interview écho, dans 20 minutes, les centres commerciaux se frottent les mains. Ils ont retrouvé leur taux de fréquentation d'avant-crise. Pour en parler, Carole Ferry reçoit ce soir Marie Cheval, PDG du groupe Carmila, 125 centres commerciaux en France. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Des éclairs qui strient le ciel, des grêlons qui martyrisent les carrosseries de voitures et des pluies diluviennes qui inondent rues et caves. Voilà les images que l'on découvre d'heure en heure à mesure que les orages s'abattent sur le pays. Intempérie très localisée et très violente, Alexandra Sirgan.
Oui, les averses restent fortes ce soir dans le nord de la Bourgogne, en Lorraine et dans le Jura, également dans les Ardennes, plus précisément dans le secteur de Rethel et du Vouzinois, où certaines entreprises ont dû être évacuées. Mais les orages, eux, perdent en intensité et c'est progressivement qu'ils se déplacent vers le Grand Est, près de la frontière avec l'Allemagne. Mais vous le disiez, on a vu des épisodes orageux d'une rare violence, comme cet après-midi à Reims, où en moins d'une heure, l'équivalent de deux semaines de pluie est tombé, du jamais vu pour Paul, gérant d'une boulangerie sur l'avenue Jean Jaurès.
Vu ce qu'il a plu, toute l'eau s'est engouffrée dans la rue, les caniveaux n'arrivaient plus à suivre et toute l'eau est rentrée dans tous les magasins, chez tous les commerçants. Ça faisait une rivière, la rue était devenue une rivière. C'est simple, je regarde tous les commerçants, ils sont en train de retirer toute l'eau. Là, l'eau, elle rentrait vraiment de tous les côtés. C'est ça qui était le plus impressionnant. Ma porte de derrière, j'ai une marche qui fait peut-être 10 cm. L'eau, elle rentrait quand même à fond. Là, déjà, on est en train de tout évacuer l'eau, tout nettoyer, voir ce qu'il y a eu comme dégâts, les frigos, les ceci, les cela. Pour l'instant, c'est pour demander.
Les rues du centre-ville se sont transformées en torrents avec de nombreux véhicules bloqués, des scooters embarqués et des caves inondées. La circulation a même été coupée à certains endroits, mais pas de blessés à déplorer. Plus de 100 interventions des pompiers ont été recensées autour de Reims.
Précision signée Alexandra Sirgan pour Europe 1. Si vous avez besoin d'aide ce soir en raison des orages ou pour toute autre chose, vous devriez pouvoir joindre les secours. Plus aucun incident n'est signalé avec les numéros d'urgence. Au surlendemain de cette panne générale, le gouvernement veut désormais des réponses. Le ministère de l'Intérieur annonce ce soir lancer un audit sur la sécurité du réseau et les services d'Orange. Objectif, comprendre comment un tel dysfonctionnement a pu se produire et surtout comment le prévenir à l'avenir. Ce matin, Jean Castex a évoqué un bilan de 4 décès présumés. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes. C'est le 49e féminicide depuis le début de l'année et à nouveau, le meurtrier a des antécédents judiciaires. À Colmar, hier soir, une femme a été jetée du 8e étage de son immeuble par son ex-compagnon. Un homme dont la violence était connue de tous, Mélina Fachin.
Oui, cet homme de 51 ans, bien connu des forces de l'ordre, a un casier judiciaire chargé. Il a déjà été condamné par la justice et il avait interdiction depuis 2 ans d'approcher Doris, son ancienne compagne. Mais cette femme de 48 ans n'arrivait pas à se dépêtrer de cette relation toxique, comme le raconte Stéphane, son ex-mari, avec qui elle avait un garçon.
C'était quelqu'un de violent, on lui avait déjà fait beaucoup de mal. Il y avait une mesure d'éloignement. Oui. Bon, après, elle acceptait qu'il vienne aussi, donc voilà. La justice avait déjà tranché là-dessus, mais bon, ça n'a pas suffi.
Hier, peu avant 20h, une dispute éclate dans l'appartement de Doris. Le suspect finit par la pousser par la fenêtre du 8e étage et jette ensuite plusieurs canettes de bière sur elle. Il n'oppose aucune résistance lorsque la police vient l'interpeller, complètement ivre. Une habitude chez lui, se rappelle le concierge de l'immeuble.
Il était alcoolisé, hein, il était, hein, quand il venait des fois le matin à 8h, 9h, quand je fais le ménage ici, hein, l'entrée, bah, il était déjà imbibé d'alcool et il sentait bien, quoi, hein, donc voilà. Il s'engueulait et puis après, lui, il balançait des fois les trucs par la fenêtre, quoi. Et donc, il fallait les récupérer sur le petit toit, là, du basic fit, quoi, hein, donc voilà.
Et c'est sur le toit de cette salle de sport, au pied de l'immeuble, qu'a atterri Doris hier soir, là qu'elle est décédée quelques minutes plus tard.
Mélina Fachin à Colmar pour Europe 1. À Metz, cette fois, une tentative de féminicide s'est déroulée en pleine rue hier après-midi. Une femme a été grièvement blessée par son conjoint qui lui a tiré dessus. L'homme a ensuite tenté de se suicider. Il est en état de mort cérébrale ce soir. Le couple était en instance de divorce et en contentieux sur la garde des enfants. La victime s'était présentée au commissariat à deux reprises dans les jours qui ont précédé la tentative de meurtre. Notez qu'à ce sujet, le ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes sera demain matin l'invité d'Europe 1. Elisabeth Moreno répondra à partir de 8h15 à Pierre de Villeneuve.
Europe 1. Julien Pierce.
Alors que les vacances d'été approchent à grands pas, le gouvernement veut relancer le tourisme et notamment attirer les voyageurs étrangers. Certains devront présenter un test PCR, d'autres non. C'est le sens de ce code couleur dévoilé aujourd'hui et qui entrera en vigueur le 9 juin, soit mercredi prochain. Les pays sont classés en fonction de leur situation sanitaire, vert, orange et rouge. Clément Le Saffre, expliquez-nous, que se cache-t-il derrière ces couleurs ?
Eh bien, c'est un code qui détermine le protocole sanitaire auquel seront soumis les voyageurs arrivant en France. On commence par les pays verts. Ça concerne la plupart des pays européens, l'Australie, le Japon ou encore Israël. Pour les voyageurs venant de ces pays où la circulation du Covid est jugée maîtrisée, il faudra simplement un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures pour venir en France. Test dont pourront se passer les voyageurs vaccinés. Pour les pays en orange, comme le Royaume-Uni, les États-Unis, la Chine, la Russie et une bonne partie de l'Afrique, couleur qui signifie qu'un variant inquiétant circule, il faudra un test pour tous les voyageurs, vaccinés ou non. Et pour les non vaccinés, il faudra en plus un motif impérieux et une période d'auto-isolement de 7 jours à l'arrivée en France. Enfin, pour la zone rouge, Inde, Turquie, Brésil, Afrique du Sud, il faudra se plier à la totale, vacciné ou pas, motif impérieux, test négatif et une quarantaine de 7 à 10 jours.
Et comment ça va se passer pour les Français souhaitant partir à l'étranger, Clément ?
Alors au départ, il faudra se plier au protocole du pays de destination. Chaque pays a le sien, donc regardez bien avant de partir. Par contre, au retour, c'est le protocole français qui s'applique. Si vous partez au Maroc cet été, par exemple, vous deviendrez automatiquement un voyageur orange avant de rentrer. Il faudra donc penser à faire un test PCR ou antigénique. À noter que ce code couleur a vocation à évoluer régulièrement en fonction de la situation sanitaire des pays. Toutes les informations sont disponibles sur le site du ministère des Affaires étrangères.
Merci Clément Le Saffre. Pour éviter de s'arracher les cheveux avec tous ces protocoles sanitaires différents, il y a une solution, rester en France. C'est la recommandation lancée mercredi par Emmanuel Macron. Les Français n'ont d'ailleurs pas attendu l'avis présidentiel pour organiser leurs vacances dans l'Hexagone. Les maisons à la campagne s'arrachent, tout comme les voitures de location. Et pour beaucoup, la grande transhumance estivale se fera en TGV. C'est rapide, pratique, mais sont-ils sûrs en pleine pandémie de Covid ? C'est la question que l'on peut se poser ce soir, alors que le site Mediapart a publié le contenu d'un rapport de l'inspection du travail, rapport qui pointe des niveaux de CO2 alarmants dans les rames. La ventilation n'y serait pas suffisamment efficace, ce qui en ferait de potentiels clusters roulants, Aurélien Fleureau.
Oui, alerté par certains élus du syndicat Sudrail en avril, l'inspection du travail a effectué des mesures de CO2 et a relevé que pendant 20 minutes, lors d'un trajet entre Lyon et Montpellier le 12 mai, le seuil autorisé avait été largement dépassé. Un phénomène fréquent selon des mesures effectuées par des cheminots eux-mêmes. La compagnie a répondu par le biais d'un communiqué qu'elle appliquait rigoureusement toutes les consignes des autorités sanitaires. Précisément, en matière de renouvellement de l'air dans ces TGV, toutes les 9 minutes avec un apport d'air extérieur permanent géré par un système de ventilation. Un air qui est filtré avec un résultat équivalent à la performance d'un masque chirurgical, précise la SNCF. C'est moins efficace que ce qui existe dans les avions, par exemple, équipés de filtres HEPA, haute performance, utilisés également en bloc opératoire. Difficile pour autant de conclure que les trains sont des clusters potentiels. Selon une récente étude de l'Institut Pasteur, il existe peu de sur-risque de contamination pour les usagers des transports, où le port du masque est respecté à plus de 95%. Mais ce que craignent également certains syndicalistes, c'est de voir les masques de plus en plus souvent baisser avec la réouverture des voitures-bars à partir du 9 juin.
Merci Aurélien Fleureau, spécialiste transport d'Europe 1. C'était attendu, c'est désormais officiel. L'Observatoire de la laïcité va être remplacé dans les tout prochains jours. Le gouvernement a décidé de reprendre la main. L'institut présidé par Jean-Louis Bianco a été très critiqué par certains politiques pour sa supposée complaisance avec les islamistes. Accusation renouvelée après l'assassinat du professeur Samuel Paty. L'Observatoire sera donc remplacé par un comité interministériel de la laïcité, Louis Dragnel.
Oui, effectivement, la nouvelle n'était pas vraiment une surprise après les critiques émises depuis plusieurs mois contre le travail de l'Observatoire de la laïcité, présidé par l'ancien ministre socialiste Jean-Louis Bianco. Des reproches, vous l'avez dit, notamment de complaisance à l'égard de l'islamisme. Alors, au-delà du changement de nom et de doctrine, le gouvernement a assigné une mission précise et opérationnelle à cette nouvelle structure. Concrètement, il s'agit, dans l'esprit du projet de loi contre le séparatisme, de mettre en place une formation obligatoire sur la laïcité pour tous les fonctionnaires. Deuxième objectif, installer des référents laïcité dans toutes les administrations publiques. Ce comité interministériel, qui sera piloté par le Premier ministre, réunira régulièrement les ministères de l'Intérieur, de l'Éducation nationale et de la fonction publique. Première réunion le 12 juillet.
Louis Dragnel du service politique d'Europe 1. 30 ans de réclusion criminelle requis en appel à l'encontre d'Inès Madani. Il s'agit de cette jeune femme accusée d'avoir tenté de faire exploser une voiture remplie de bonbonnes de gaz en 2016, non loin de Notre-Dame de Paris. La djihadiste et une autre de ses complices avaient tenté d'incendier le véhicule avec du gazole, carburant difficilement inflammable, ce qui a permis d'éviter une explosion meurtrière. Venons-en maintenant à ce fléau, trop souvent passé sous silence malgré les 41 000 décès qu'il provoque chaque année en France. Je veux parler de l'alcool, dont on a appris aujourd'hui qu'il est la première cause d'hospitalisation. C'est ce qui ressort du rapport d'un collectif d'experts mené par l'INSERM. En clair, Anne Le Gall, nous consommons tellement d'alcool que ses ravages sont équivalents à ceux du tabac.
Voilà, on compte 43 millions de consommateurs d'alcool en France. Cela représente les deux tiers des Français. La consommation moyenne est de 3 verres par jour. Et cela a des conséquences très lourdes sur la santé. L'alcool est responsable de 11% des décès chez les hommes, 4% chez les femmes. Il est aussi à l'origine d'une soixantaine de maladies, explique Michael Nassila, professeur de physiologie et chercheur à l'INSERM.
Quand on meurt d'alcool, on meurt de cancer, de pathologie cardiovasculaire. Il faut arrêter de dire que l'alcool, c'est bon pour le cœur. Non, ça entraîne des troubles du rythme, de l'hypertension. Et puis, nos repères ont évolué et le message clair à donner, c'est pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours pour les hommes et pour les femmes.
En France, le coût sanitaire de l'alcool correspond à 6% du PIB. C'est autant que le coût du tabagisme. Et pour agir en amont, les experts de l'INSERM recommandent donc de durcir la publicité sur l'alcool, de le taxer davantage et de multiplier les campagnes grand public comme le mois sans alcool. Car les études montrent que lorsqu'on arrive à réduire sa consommation pendant quelques semaines, ce changement d'habitude perdure assez longtemps, jusqu'à 6 mois.
Merci Anne Le Gall. 22h13 sur Europe 1, l'heure d'ouvrir notre page sport avec pour commencer c'est le foot féminin, dernière journée du championnat avec à la clé peut-être la fin d'une longue hégémonie. 14 saisons que les championnes de France sont lyonnaises. Mais ce soir, les joueuses du PSG peuvent enfin remporter le titre. Elles jouent en ce moment face à Dijon. Sous vos yeux, Julien Froment.
Exactement, et c'est très très bien parti pour cette équipe du Paris Saint-Germain section féminine puisque les Parisiennes mènent 2 à 0 face à Dijon, des buts inscrits eh bien, à la 7e minute de jeu par l'Allemande Debritz sur penalty. Et puis à l'heure de jeu, c'est la capitaine Paredes sur un corner qui s'est élevé plus haut que tout le monde pour aller me placer. Donc un coup de casque dans le but de la gardienne dijonnaise. Paris qui maîtrise totalement sa rencontre et qui, vous l'avez dit, eh bien, après des années et des années à avoir couru derrière l'Olympique Lyonnais, eh bien, enfin, les Parisiennes vont pouvoir être sacrées championnes de France pour la première fois de leur histoire et stopper cette hégémonie rodanienne de 14 ans d'affilée de titres pour les joueuses de Jean-Michel Aulas. Et eh bien cette fois-ci, c'est Paris qui va soulever ce trophée. Un Paris Saint-Germain plutôt aux anges, hein, on va dire, cette saison, puisque aussi le handball, les Parisiens en hand ont remporté aussi le titre de champion de France. Ne manque plus que les garçons finalement qui ont fini eh bien deuxième derrière le LOSC. 2-0 donc pour les Parisiennes face à cette équipe de Dijon. Encore un gros quart d'heure à jouer dans cette partie.
Merci Julien Froment, en direct du stade Jean Bouin à Paris, où à quelques encablures de la Porte d'Auteuil, on joue au tennis.
Europe 1, radio officielle de Roland-Garros.
Et on retrouve Axel May en direct de Roland-Garros avec, sous vos yeux ce soir Axel, un duel entre le numéro 5 mondial Stefanos Tsitsipas et un Américain au service redoutable John Isner.
Oui, ex top 10 mondial, Isner qui est aujourd'hui au-delà de la 30e place, mais il a l'expérience pour lui et ce puissant service, vous le disiez, il a remporté la première manche 7-5 face à Stefanos Tsitsipas avec, tenez-vous bien, 91% de réussite sur sa première balle. C'est dire si son service fait mal à Tsitsipas. Il y a actuellement 3-2 en faveur de Tsitsipas, mais c'est Isner qui est au service dans la deuxième manche. Autrement dit, si jamais ça se confirmait, on aurait là une véritable surprise. On en est évidemment, c'est pas terminé, mais si jamais Tsitsipas sortait, ça serait vraiment une surprise parce que c'est l'un des favoris pour arriver en finale.
Axel, quels sont les résultats à retenir aujourd'hui?
Eh bien, on retiendra que c'est passé pour l'Allemand Zverev, outre outsider sérieux, c'est passé pour Venus Williams. Et puis, côté français, on a les Français en huitième de finale, on n'en a plus en simple, mais on en a en double, puisque Herbert et Mahut se sont qualifiés pour les huitièmes de finale en double, ainsi que Benoît Paire, qui est avec un monégasque.
Merci beaucoup Axel May, en direct de Roland-Garros pour Europe 1.
Pour jouer et tenter de gagner vos places pour la finale de Roland-Garros, envoyez dès maintenant tennis au 739-21. 75 centimes plus coût d'un SMS. Deux SMS pour jouer.
On termine avec la météo. Et la météo, c'est avec vous, Anissa Haddadi. Les pluies vont enfin se calmer demain.
Oui, dès le début de la journée, Julien, sur la moitié ouest, on va enfin souffler du Cotentin jusqu'au Pays Basque. La matinée est lumineuse. Demain, le soleil est de retour. Au bord de la Méditerranée aussi, hein, nous avons une journée qui commence sous le soleil. Du Massif central au Grand Est, en revanche, alors là, en passant par la région parisienne et la Bourgogne, dans toutes ces régions, il pleut demain matin, parfois fort, en particulier dans le Grand Est. Dans l'après-midi, les éclaircies vont gagner du terrain. Vous savez, les éclaircies qu'on avait le matin sur l'ouest sont en train d'avancer et vont couper la France en deux. En fait, sur le quart nord-est, nous avons un temps qui reste toujours gris et humide, avec en Alsace encore un risque d'orage demain après-midi, et puis sur tout le reste du pays, donc toute la moitié ouest et le pourtour méditerranéen, et bien là, le soleil s'impose. Les températures, elles sont stationnaires le matin avec 8 à 18 degrés. Dans l'après-midi, c'est toujours plus frais à l'ouest et au nord, avec 16 degrés à Dunkerque, 17 à Cherbourg, 19 pour Aurillac et Lille, 21 degrés à Nancy, 22 à Paris, ça a baissé, 25 pour Bastia et Strasbourg, et toujours de la chaleur dans le sud avec 27 degrés à Perpignan, 29 pour Avignon et 30 la maximale à Nîmes.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com, suivi de l'interview écho de Carole Ferry. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30.
22h18 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street. Et c'est avec Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
Wall Street est reparti en hausse ce soir et s'approche de ses records malgré des chiffres décevants pour l'emploi aux États-Unis.
Oui, ça monte pour le Dow Jones, plus 0,52%, 34 756 points. Et le Nasdaq bondit de 1,47%, 13 814 points. Les chiffres de l'emploi étaient très attendus. 559 000 emplois créés en mai aux États-Unis dans le secteur non agricole. C'est moins que prévu. Mais la bonne nouvelle pour les investisseurs, c'est que ça éloigne le risque que la Réserve fédérale réduise son soutien à l'économie avant de longs mois. Alors le pétrole aussi est en forme, il gagne environ 1%, on parie sur une demande solide de brut au deuxième semestre. Et puis les stars de la tech aussi ont soutenu les indices. Apple bondit de 1,8%, Tesla plus 4,6%. C'est du vert aussi pour Alphabet et Facebook qui font pourtant face à de nouvelles accusations liées à leur supposée position dominante en Europe.
Alphabet, c'est la maison mère de Google, si
exactement.
Je ne me trompe pas. Pas beaucoup de changements en revanche ce soir pour le CAC 40 qui reste bien installé au-dessus des 6500 points.
En toute petite hausse de 0,12%, 6515 points. Le CAC 40 toujours très calme mais qui reste haut perché puisqu'il a retrouver ses niveaux de septembre 2000 cette semaine. Technip FMC gagne encore plus de 4%. Le groupe parapétrolier profite logiquement de la très bonne tenue des cours du brut. Et puis dans le même secteur, Vallourec, qui fabrique des tubes pour l'industrie pétrolière, flambe de près de 9% après le lancement d'une augmentation
augmentation de capital de 300 millions d'euros.
Alors le pétrole va bien, mais les constructeurs automobiles moins bien. En revanche, c'est Renault qui signe ce soir le plus lourd repli sur le CAC 40.
Un repli de près de 2% pour Renault. Son partenaire Nissan a annoncé que le lancement du nouveau SUV électrique Ariya allait être retardé en raison de la pandémie et de la pénurie mondiale qui affecte les puces électroniques. Ailleurs en Europe, les marchés ont terminé en hausse. Francfort gagne 0,4%, Londres plus 0,1%, plus 0,5% pour Milan, plus 0,4% pour Amsterdam. Une exception avec Madrid qui perd 0,6% et le CAC 40 à Paris. Il gagne un petit 0,1%, 6 515 points.
Merci beaucoup Claire Lemaître de Boursier.com et à lundi. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Carole Ferry, c'est à vous.
Marie Cheval, bonsoir.
Bonsoir Carole Ferry.
Vous êtes PDG de Carmila. Alors Carmila, ça ne parle peut-être pas à nos auditeurs, mais le nom des centres commerciaux qu'il y a derrière, peut-être. C'est par exemple Nice Lingostière, Toulouse Purpan, le Gierck à Thionville. Vous êtes pas mal dans les moyennes villes en fait. 125 centres commerciaux en France, c'est ça?
Oui, c'est ça. On exploite des centres commerciaux qui ont deux particularités. D'abord, ils sont souvent dans des villes moyennes. Ils sont souvent le second centre-ville de ces villes. Et puis, nous trouvons toujours un hypermarché Carrefour dans les centres commerciaux Carmila.
Vous travaillez en partenariat?
Exactement.
Alors, depuis que les magasins ont rouvert le 19 mai, comment ça se passe? Plutôt bien, je crois.
Ça se passe très bien. Et je dois dire que nous sommes très contents de revoir des clients souriants dans nos centres et puis des commerçants qui ont la pêche. On constate vraiment un boom de la fréquentation, hein, plus 21% par rapport à l'année dernière. Et on retrouve
l'année
en fait le niveau de 2019.
Voilà.
Plus 21% par rapport à l'année dernière. On retrouve en fait le niveau de 2019. Et ça, c'est vraiment très encourageant. On sent vraiment que les Français, ils ont besoin de se retrouver ensemble, de pouvoir se balader, échanger ensemble et puis retrouver leurs commerçants et leurs vendeurs.
Vous avez des restaurants dans vos centres commerciaux?
Oui, nous avons des restaurants. Ils ont réouvert le 19 mai pour les terrasses et on a hâte d'être le 9 juin pour qu'ils puissent réouvrir leurs salles à l'intérieur.
Parce que ça veut dire que vous avez une hausse de la fréquentation malgré la fermeture des restaurants?
Oui, tout à fait.
Parce qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de centres commerciaux qui ont, où on a dit bon les chiffres ne sont pas très fiables puisqu'il n'y a pas la fréquentation des restaurants. Vous, vous avez une hausse malgré ça.
Exactement, ça veut dire qu'on espère que la fréquentation sera encore meilleure une fois que les restaurants auront pu réouvrir.
Alors, 21% de hausse de la fréquentation, mais qu'est-ce qu'il en est de l'activité? Est-ce que les Français achètent plus?
Alors moi, tous les commerçants que je rencontre sont très contents de cette reprise. Nous avons eu un très fort week-end autour de la fête des mères. Et nous, on a la chance d'avoir ouvert une extension de centre commercial à Nice avec 50 boutiques en plus. Et ça fait plus 45% d'activité. Donc c'est vraiment très encourageant.
Donc effectivement, c'est ce qu'on dit un petit peu hein, depuis le début. Les gens viennent, mais ils viennent pas simplement faire du shopping. Ils viennent vraiment acheter.
Tout à fait. Ils viennent acheter. Je crois qu'on a tous été un peu frustré de ne pas pouvoir acheter, de ne pas pouvoir toucher, sentir, avoir l'occasion de voir les nouvelles collections, de rencontrer les nouvelles boutiques. Et donc, évidemment, tout le monde s'est rué dans les magasins.
Qu'est-ce qui marche le mieux?
Qu'est-ce qui marche le mieux? J'ai envie de vous dire, là, depuis le 19 mai, tout marche très bien. Nous, on a eu la chance de pouvoir ouvrir des nouvelles boutiques qui, là aussi, trouvent très vite leurs clients avec à la fois des
pendant
très grandes enseignes.
Pendant les confinements, vous avez pu ouvrir des boutiques?
Ben, c'est des boutiques, si vous voulez, dont les projets ont été terminés pendant le confinement. On a profité, nous, du confinement pour faire des travaux, pour faire en sorte que nos centres soient encore plus beaux à la réouverture. Et donc, nous avons ouvert pour la première fois 130 nouvelles boutiques le 19 mai. À la fois des nouvelles enseignes, hein, des enseignes comme le Repère des Geeks, par exemple, qu'on a ouvert à Nice.
Alors, c'est-à-dire, c'est quoi le Repère des Geeks?
Le Repère des Geeks, bah, comme son nom l'indique, c'est le repère de tous les jeunes qui sont fans notamment de jeux vidéo. Et puis des enseignes plus connues comme Cultura, on a ouvert un très beau magasin à Nice.
Comment ça se passe avec les magasins qui sont dans vos centres commerciaux? On a beaucoup parlé des problèmes de loyer pendant ces confinements. Est-ce que vous avez réussi à trouver des accords?
Alors, il y a eu plusieurs étapes de confinement. Nous avons accompagné tous nos commerçants. En 2020, par exemple, c'est 3 mois de fermeture. Nous avons fait des abandons de loyer pour 1,9 mois, c'est-à-dire le montant de l'accompagnement. pour 2021, nous sommes dans l'attente des derniers dispositifs qui devront nous permettre à toute la profession de pouvoir trouver des accords facilement. Je crois que tout le monde a envie maintenant de mettre cette période derrière nous pour se concentrer sur les commerçants et les clients.
Sur l'avenir.
Voilà, exactement. Je crois que le commerce, c'est la vie. Et tout ça, ça nous a beaucoup manqué. Et donc, c'est ce que nous disent aujourd'hui les clients.
Alors, vous êtes resté fermé environ 3 mois. Est-ce qu'il y a beaucoup de stocks dans les magasins ?
Il y avait beaucoup de stocks le 19 mai. Il y en a beaucoup moins maintenant. Les soldes vont arriver. Ça également, c'est des sujets tout à fait positifs.
Alors, les soldes qui ont été légèrement reportés à la fin du mois de juin, au lieu du 23 juin, c'est une bonne chose. Je crois que vous n'étiez pas forcément favorable, vous, à ce que ce soit trop décalé.
Je crois que ce qui était très important, c'est d'avoir une date claire. Elle l'est et maintenant, tout le monde peut s'y préparer.
Vous les voyez comment, ces soldes ?
Je les vois effectivement très, très dynamiques. Je crois qu'on a là l'occasion de faire une très belle saison en espérant que le virus soit désormais derrière nous. Je crois que c'est ce que souhaite tout le monde.
Vous dites que vous avez fait des travaux dans vos centres commerciaux. Oui. C'est quoi, selon vous, l'avenir des centres commerciaux ?
Les centres commerciaux, leur avenir, c'est de continuer à répondre aux besoins des clients. Et donc, pour ça, ce que le client attend, c'est les bons commerçants dans les centres commerciaux, des lieux qui soient accueillants, accessibles, avec un parcours client agréable. Et c'est ça qu'on travaille, par exemple, en développant les services, et notamment la santé, pour faire venir à la fois des pharmacies, des centres dentaires dans nos centres, et puis en travaillant toujours pour avoir toujours quelque chose de nouveau dans nos centres. Des boutiques éphémères, des nouveaux espaces pour les enfants.
Des boutiques éphémères, c'est-à-dire ?
Les boutiques éphémères, c'est des boutiques qui vont être dans le centre pour une durée limitée. Ça peut aller de quelques jours. Par exemple, nous travaillons avec Tente pour tous qui vient sur un week-end dans nos centres et qui crée un véritable buzz parce qu'ils sont capables d'animer une grande communauté de clients online. Ou bien, ça peut aller à quelques mois, par exemple, avec le repère des sorciers pour les fans d'Harry Potter que nous avons dans une vingtaine de centres.
Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite que ce bon début se poursuive et une excellente soirée.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Merci Carole Ferry et à votre invitée Marie Cheval, PDG des centres commerciaux. Carmilla, lundi, on retrouvera Emmanuel Duteil qui sera dès 13h aux côtés d'Elisabeth Assayag pour La France Bouge. Émission en direct de Roland Garros avec comme invité Patrick Houilly, le directeur du Coq Sportif. 22h28 sur Europe 1, on passe aux unes de demain. Ce sera bref ce soir, vu que la plupart des journaux n'ont pas encore terminé leur bouclage. Cold Case, la chasse aux fantômes est ouverte. C'est le titre à la une de Libération qui revient sur l'un des aspects du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. La création de pôles spécialisés dans les crimes non élucidés. Une initiative plus que salutaire, écrit Alexandra Schwarzbreu, d'exemple à l'appui. Si un tel pôle avait existé, les enquêteurs n'auraient peut-être pas écarté si vite la piste de Michel Fourniret dans la disparition d'Estelle Mouzin. Si un tel pôle avait existé, les dossiers concernant les disparitions suspectes de la petite Maëlys à Pont-de-Beauvoisin et d'Arthur Noyer à Chambéry n'auraient pas été éparpillés et cela aurait peut-être permis de remonter plus rapidement jusqu'à Nordal-le-Landais, épargnant au passage des années d'enquête et surtout d'épreuves pour les familles des victimes, conclut l'éditorialiste de Libération. Un tout autre sujet à la une du Figaro. Origine du Covid, la piste du labo chinois se précise. Joe Biden a en effet demandé à ses services de renseignement d'enquêter sur cette théorie, jugée totalement loufoque, pour ne pas dire complotiste, il y a encore quelques mois. Théorie qui, aujourd'hui, prend de plus en plus d'épaisseur, vu que les enquêteurs américains ont établi qu'au moins 3 employés de l'Institut de virologie de Wuhan avaient été hospitalisés avec les symptômes du Covid dès novembre 2019, soit plusieurs semaines avant l'alerte officielle, à lire donc demain dans le Figaro. Et juste avant la libre antenne de Sabine Marin, un dernier détour au stade Jean Bouin à Paris, où les footballeuses du Paris Saint-Germain sont en passe d'être sacrées championnes de France, Julien Froment.
Oui, effectivement, il reste une poignée de secondes du côté du stade Jean Bouin pour cette affiche entre le Paris Saint-Germain et Dijon. Les Parisiennes qui mènent toujours 2-0 grâce à des réalisations d'Ebritz à la 7e et de la capitaine Paredes à l'heure de jeu. Ça sent très bon. Paris qui va remporter son premier titre de championne de France de son histoire avec même un 3e but. Voilà, pour sceller ce succès des Parisiennes avec tout le banc qui s'est levé. Ce but de la Canadienne 8 Emma pour le 3-0. Et on peut le dire désormais, le Paris Saint-Germain championne de France après qui met fin à l'hégémonie des Lyonnaises, 14 ans consécutivement pour les Lyonnaises. Et ben voilà, Paris qui va être sacrée championne de France et qui va pouvoir célébrer eh bien ce titre remporté sans avoir perdu aucun match cette saison aussi. Ça, c'est à souligner pour l'équipe d'Olivier Échouafny. 3-0 donc pour les Parisiennes et la fin du match dans quelques instants.
Merci beaucoup Julien Froment en direct du stade Jean Bouin à Paris.